Bonjour à tous, bienvenue dans l'Esprit Public, une heure pour porter un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la sociologue Dominique Schnapper, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, le politologue Dominique Régnier et Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Au sommaire de ce dimanche 20 octobre, Brexit, un report encore et encore. Un autre débat sans fin, mais celui-ci est made in France, le port du voile au pays de la laïcité. Enfin, bien sûr, la situation à la frontière turco-syrienne. Poutine grand Manitou, un Moyen-Orient sans l'Occident. Londres, brouillard du samedi soir. Hier, nouveau retournement dans la série du Brexit. Et les scénaristes, c'est vrai, radotent un peu. Rappel des derniers épisodes. Jeudi, Boris Johnson, le Premier ministre, se réjouissait d'avoir obtenu de Bruxelles un nouveau deal qui permettait d'éviter l'écueil numéro 1 du Brexit, le retour d'une frontière entre les deux Irlandes, celle qui veut rester dans l'Union et celle qui ne veut pas. Mais samedi soir, le Parlement a voté positivement, non pas sur le contenu de cet accord bruxellois, mais sur un amendement de dernière minute, sortie de la poche d'un député conservateur, réclamant plus de temps pour examiner les conditions de ce nouveau deal. Nouvelle finasserie parlementaire, nouveau camouflet terrible pour Johnson, lui qui croyait cette fois pouvoir tenir sa grande promesse politique, quitter l'Europe le 31 octobre prochain avec un deal. Soit. Et maintenant, que des questions, peu de réponses. Bruxelles dira-t-elle oui ou non à un nouveau délai ? Johnson pourra-t-il parvenir à ses fins ? Un Brexit le 31 octobre dans 11 jours ? Si oui, un Brexit avec deal ou sans deal ? Et sinon, Johnson devra-t-il partir ? Y aura-t-il de nouvelles élections législatives ? Le peuple devra-t-il revoter par référendum ? On l'aura compris, ce lendemain de soirée Brexit donne un peu mal à la tête, un peu comme après une trop longue nuit au pub, donnant terriblement envie d'aller voir du côté de cette nouvelle chaîne de télé britannique qui promet précisément de ne pas parler du Brexit. Baptisée Sky News Brexit Free, la nouvelle chaîne est diffusée 5 heures chaque jour de la semaine de 17h à 22h. Mot tabou à l'antenne, hard and soft Brexit, leave and remain, or deal or not deal, idéal pour apaiser les migraines dominicales.
Good afternoon. This is Sky News Brexit Free. It's 5 o'clock. The top stories.
Oh mon Dieu, le Brexit. Je pense que tout le monde en a assez.
Je pense que c'est important de savoir ce qu'il se passe. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le sujet du Brexit.
Vous en avez marre du Brexit ?
Oui, beaucoup. Tout ça aurait dû être fini il y a au moins 2 ans. Je veux juste que ça se termine.
Voilà, Sky News Brexit Free, que vous allez tous regarder, je sens, cet après-midi dans ce studio, en attendant la couverture du journal du dimanche ce matin. Brexit, c'est par où la sortie ? Et ce Johnson, hirsute, main devant la bouche, comme un gamin embarrassé. Le Premier ministre, malgré le vote perdu hier, veut toujours un divorce rapide. C'est un vœu pieux, Dominique Schnapper. Que se passe-t-il maintenant ? Et surtout, racontez-nous l'histoire confuse de ces deux lettres envoyées hier soir.
Oui, dans ce long roman, et qui n'est pas prêt de finir, parce que je vous rappelle que tout ça, c'est encore une discussion sur un accord de sortie. Et que après, à supposer qu'on arrive à un accord de sortie, il y aura ensuite à négocier les termes de cette sortie. Donc, nous en avons pour quelque temps à parler du Brexit le dimanche matin. Alors, les deux lettres... Oui,
Pas cette tête, c'est assez réjouissant.
Non. Franchement, c'est...
De venir dans ce studio, oui.
Mais le Brexit n'est pas très réjouissant, parce que c'est tout de même cette décomposition de la plus grande démocratie et de ceux qui ont inventé la République représentative, cette décomposition de la classe politique et du fonctionnement de la démocratie britannique. C'est désolant, hein, c'est désolant. Bon, alors, le dernier épisode, nous nous sommes couchés hier soir sur la question, à la suite de ce vote hostile, allait-il démissionner ? Allait-il ne pas en tenir compte ? Il ne pouvait pas ne pas en tenir compte parce que sinon le Parlement référait à la Cour constitutionnelle et elle aurait pris la même décision qu'avant. Et puis ce matin, on se réveille avec deux lettres. La première est une lettre de sortie du Premier ministre. Mais qui est conforme donc au vote qui a eu lieu au Parlement.
Qui a donc, précisément, envoyé une lettre au président du Conseil européen, Donald Tusk, pour demander un nouveau report du Brexit.
Voilà, pour demander le report en fonction de ce qui avait été voté par le Parlement, respectant la décision du Parlement. Mais cette lettre n'est pas signée. Et il y a en même temps une deuxième lettre, une seconde lettre, qui, je ne l'ai pas eu en main parce que je n'ai eu que les informations que donne la radio, donc je ne peux pas vous dire quels sont ces termes exacts, mais selon la radio, cette lettre dirait « ne tenez pas compte de la précédente, je ne suis pas d'accord et je ne demande pas de report ».
Qu'est-ce que ça dit de Boris Johnson, ces deux lettres ?
Alors, la seule logique qu'on pourrait voir, la première est pour empêcher le recours à la Cour constitutionnelle, et la seconde est l'espoir qu'il fera encore voter avant le 31, sous la pression, le Parlement pour son projet. Parce que le projet avec lequel il s'est mis d'accord sur l'Europe est beaucoup plus... est en retrait par rapport à celui de Theresa May, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins. Theresa May avait conservé un certain nombre des protections qui rendaient le projet anglais plus proche, disons, du continent, tandis qu'on a l'impression que Boris Johnson agit dans l'idée du paradis fiscal et de la rupture complète avec toutes les protections européennes. Et dans l'état d'exaspération où se trouvent à la fois les parlementaires et la population anglaise, qui est de plus en plus hostile à sa classe politique et dans la crise politique, je pense la rationalité qu'on peut lui prêter consiste à penser qu'il espère imposer quand même l'accord du 31 octobre.
Alors là, on essaie de se mettre dans la tête de Boris Johnson.
Oui, ce n'est pas spontané.
Ce qui n'est pas évident. Dominique Rigny, avec vous, on va essayer de se mettre dans la tête de Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui a donc reçu hier soir ces deux lettres du Premier ministre britannique. On sait qu'il y a divergence au sein des partenaires européens entre ceux qui ne veulent plus faire de concessions à la Grande-Bretagne. C'est notamment, on a cru le comprendre, le cas du président français. Que se passe-t-il maintenant pour les institutions européennes ?
C'est une situation qui est presque inextricable aujourd'hui, puisque, comme le disait Dominique Schnapper à l'instant, même l'idée de sortir de l'UE ne correspond pas vraiment à quelque chose. Je dis ça en réponse à votre question, parce que cette situation radicalement durcie par Boris Johnson va amener les Européens à négocier entre eux sur absolument chaque sujet. Je ne sais pas si on peut le dire assez clairement pour les auditeurs qui s'intéressent au sujet, mais pour chaque question ensuite qui impliquera des relations entre la Grande-Bretagne et les pays de l'Union européenne, des questions d'échanges commerciaux, d'échanges d'étudiants, de diplômes, de reconnaissance, de tout ce qui fait la vie de nos sociétés, tout devra être approuvé à l'unanimité des États membres de l'Union européenne pour qu'on puisse fixer une règle d'échange avec le Royaume-Uni si la situation est celle-là, c'est-à-dire absence d'accord, ce qui aujourd'hui est, et alors jusqu'à demain en tout cas, mais ce qui aujourd'hui depuis ce matin semble se dessiner. Ça signifie que à l'intérieur même de l'Union européenne, les États vont jouer une carte qui sera pour les uns collective à tel moment, pour d'autres très personnelle ou pour d'autres personnelle ou collective sur le moment. Pour l'Irlande, c'est un sujet extraordinairement, c'est un sujet vital. L'Irlande conserve une sorte de, c'est un peu la tyrannie de l'un. Hein. L'Irlande va conserver un pouvoir considérable sur cette affaire de régulation des liens avec et des échanges avec le Royaume-Uni. Aujourd'hui, personne ne peut savoir ce que seront ces discussions sur toutes les parties, tous les registres de la vie de nos sociétés, mais il faudra l'unanimité. Sachant que d'un côté, même pour Donald Tusk, d'un côté, il y a quelque chose d'assez simple dans cette espèce de grand bazar, qui est que Boris Johnson cherche à créer des conditions favorables d'une victoire électorale. C'est quelque chose de très lisible, ça. Donc il y a une part de tactique, il y a une part de mise en scène. Il pousse au crime les parlementaires dont il voudrait se débarrasser pour avoir une nouvelle majorité. Et puis, l'autre aspect qui est effroyablement compliqué, c'est qu'au milieu de cet échange inextricable, il y a la relation entre le Royaume-Uni et l'Irlande, qui était, comme vous le savez, en vertu de concessions mutuellement faites il y a quelques jours, qui étaient à l'origine de l'accord du 17 octobre. Mais c'est aussi à cause des représentants de la province irlandaise britannique que la majorité n'a pas été trouvée. Et donc on voit bien au cœur même de ce sujet la question irlandaise, la question de savoir si la province irlandaise, ce qu'exigent ses élus aujourd'hui, va conserver un statut ordinaire, ce qu'elle demande, par rapport aux autres parties du territoire britannique, ou bien s'il y aura, donc ce qui veut dire une frontière, ou s'il n'y aura pas de frontière avec l'Irlande, ce que demande l'Irlande, qui a un droit de veto désormais, puisque c'est un pays de l'Union européenne, comme les autres, ou s'il n'y aura pas de frontière...
Une seule voie suffit.
Oui, bien sûr, absolument. Une seule voie suffit. Absolument. Et conséquemment, maintiendrait, de fait... une espèce d'espace européen pour les Britanniques, puisqu'ils auraient l'accès libre à la province irlandaise et par là l'accès libre à l'Irlande et à l'Europe. Donc c'est une situation qui paraît aujourd'hui presque dramatique. Il y a un côté amusant, on en sourit, on en rit, parce que c'est un feuilleton qui sans cesse rebondit. Je suis pas certain, moi, que Donald Tusk, Michel Barnier et tous les autres, et je ne leur reprocherai pas d'ailleurs, aient une idée de ce qui va se passer et maîtrisent quoi que ce soit. Ce qui me paraît clair, c'est que Boris Johnson a une stratégie jusqu'au boutiste, anti-politique, anti-système en quelque sorte, avec l'idée que en renversant le système, là au moins la classe politique britannique, si le système politique survit à ce bouleversement, il espère avoir une majorité pour faire cette espèce de nouveau Royaume-Uni qui serait, c'est ce qu'il a un peu annoncé, vous le disiez Dominique Schnapper, qui serait plutôt sur une stratégie de compétition fiscale, etc. Tout ceci, je veux terminer là-dessus, mais c'est un plan de faire du Royaume-Uni une espèce de paradis fiscal, par exemple, pour attirer les investisseurs.
Mais de grand Singapour, dit-on voilà. Beaucoup ces derniers jours.
C'est un plan, mais qui suppose que tous les Européens acceptent d'échanger avec le Royaume-Uni dans des conditions qui sont satisfaisantes pour le Royaume-Uni. Et ça va dépendre de l'accord unanime de tous les États de l'Union Européenne. Donc, c'est quand même très spéculatif, je trouve, et plus qu'imprudent à l'échelle de l'histoire.
Thomas Gomard, c'est dans 11 jours, le jeudi 31 octobre. Est-ce que réellement personne ne sait ce qu'il va se passer ce jour-là?
Ah ben je pense que personne ne sait aujourd'hui, oui. Et que moi, je rejoins ce que vient de dire Dominique Régnier. Je pense qu'il y a une volonté de disruptive, pour prendre un terme à la mode de Boris Johnson. Ce qui est très frappant du côté européen, c'est que c'est en train d'absorber toutes les ressources politiques de l'Union européenne. Ça a encore été à l'agenda du dernier Conseil européen, alors même qu'il y a deux sujets qu'on ne voit pas du coup, qui sont les positions prises par les uns et les autres par rapport aux prochains élargissements. Et avec, à mon avis, une tension franco-allemande très forte.
Sur la question macédonienne, voilà, notamment.
Macédoine et Albanie. Et puis, ça détourne notre regard de ce qui se passe en Catalogne, ce qui devrait aussi retenir notre attention.
Ces manifestations monstres, voilà, en effet, ces dernières heures.
Qui aussi, je dirais, répondent à des formes aussi de velléité très forte d'autonomie en Espagne. Donc ça, c'est la première chose qui me frappe, si vous voulez, c'est à quel point nos ressources politiques sont absorbées depuis 3 ans et au moment où l'Union européenne aurait besoin précisément d'aller sur d'autres sujets. Je pense que la tactique de Johnson, compte tenu de son mépris au fond pour les mécanismes et les institutions européennes, et de faire que cela dure, que le Royaume-Uni reste comme ça un perturbateur en quelque sorte. Donc il faut à mon avis essayer de rompre dans les meilleures conditions. La deuxième remarque que ça m'inspire, c'est ce qu'on dit sur le modèle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement irréaliste, je pense, dans le discours de Boris Johnson sur cette idée d'un Singapour géant, ce qui, à mon avis, ne tient absolument pas compte de l'état social, économique aujourd'hui du Royaume-Uni.
Rappelez d'ailleurs peut-être en quelques mots ce qu'est ce modèle de Singapour.
Bah, c'est cette idée, effectivement, d'une hyper-modernisation, hyper-connectivité, au fond, d'être complètement dans la partie, je dirais, fluide de la mondialisation. Mais ça, comment dirais-je, on oublie que le Royaume-Uni fait à peu près 50% de ses échanges avec l'Union européenne et 9% avec les pays du Commonwealth, première chose. Et puis que les gens, fondamentalement, ont probablement voté pour le Brexit pour conserver des formes de protection que le modèle de Singapour remettrait directement en question.
Et je pense qu'en fait, c'est... pour se jeter dans le grand bain du grand libéralisme.
Voilà, et en fait, c'est un décalage, à mon avis, énorme et grandissant entre Londres et le reste de l'Angleterre. Alors, la troisième chose est plus gênante pour nous, c'est que, pour nous, Européens et Français en particulier, c'est qu'à mon avis, il faut aussi rompre, comme je le disais, dans les meilleures conditions, savoir divorcer dans les meilleures conditions, tout en ayant des cordes de rappel avec le Royaume-Uni. Et ça, c'est extrêmement important pour la France, parce que, au-delà du fait que les trois plus anciennes démocraties mondiales sont en crise aiguë, les États-Unis, le Royaume-Uni et, à mon avis, aussi la France, nos accords de sécurité dépendent en grande partie de ce qu'on va arriver à faire avec le Royaume-Uni dans les années à venir. On fête cette année les 10 ans de l'accord de Lancaster. Je m'arrête là parce que ce sera peut-être un lien avec l'autre thème de la journée. Mais le fait que la proposition britannique et française sur l'invasion turque en Syrie ait été reçue comme elle a été reçue au Conseil de sécurité est un indicateur qui, nous Français, doit aussi nous rappeler qu'on ne fera rien diplomatiquement de sérieux sans les Britanniques à terme.
On en parlera en effet dans notre troisième partie. Avant cela, Aurélie Filippetti, plus d'un million de personnes, ou en tout cas des dizaines de milliers, car il y avait polémique sur les chiffres hier, de personnes dans les rues de Londres. Il y avait des jeunes qui n'étaient pas en âge de voter au référendum de 2016 et qui le peuvent maintenant. Il y avait beaucoup de familles, de citoyens européens. Est-ce qu'un second référendum, finalement, serait aujourd'hui la meilleure sortie de crise? Et pourquoi est-ce que cela semble si difficile d'en venir à cette solution-là?
Évidemment, ça serait sans doute une... peut-être même la seule solution finalement politique raisonnable, avec sans doute de la part des Britanniques aussi une grande lassitude, une grande fatigue, on le voit avec cette chaîne de télévision là qui vient d'être créée, mais aussi la volonté d'exprimer un message qui est celui de la peur de ce modèle vraiment ultra-libéral que propose Boris Johnson en alternative à celui de l'Union européenne. Il faut bien voir que la pauvreté en Grande-Bretagne, depuis les années Thatcher et à cause de la politique Thatcher, a explosé. La pauvreté des enfants, l'analphabétisme, enfin les difficultés d'accès à l'école, les inégalités évidemment qui ont explosé, et c'est tout ça au fond qu'incarne Boris Johnson. Alors lui s'est posé, il faut rappeler qu'il a commencé sa carrière comme journaliste correspondant à Bruxelles, et que pour se faire remarquer, il faisait des chroniques satiriques où il racontait absolument n'importe quoi, mais sur un mode humoristique contre l'Union européenne, en inventant des fausses directives, etc. Et en fait, là, il continue finalement à tourner en dérision, mais des choses qui sont extrêmement sérieuses et qui ont des impacts sur la population britannique et qui vont en avoir. Enfin, je veux dire, sa proposition qu'il avait faite avant sa rencontre avec le Premier ministre irlandais, qui consistait en fait à dire on va mettre une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, une frontière dématérialisée, déportée entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, était vraiment une vraie menace pour la paix en Irlande, et puis évidemment aussi inacceptable pour l'Union européenne, parce que c'était évidemment les risques de fraude. Donc cet homme n'est pas vraiment pas un partenaire fiable et responsable, et malheureusement c'est lui qui est aux manettes. Et donc on peut pas non plus critiquer, pardon, je vais finir là-dessus, trop critiquer le Parlement britannique de vouloir mettre des garde-fous. Et si c'est un député d'ailleurs conservateur qui a fait voter cet amendement, là c'est pas pour rien, c'est parce que aussi le Parlement, et heureusement qu'il y a cette vitalité du parlementarisme britannique, veut mettre des garde-fous face à celui qui est au pouvoir aujourd'hui.
Dernière question sur cette thématique, Dominique Régnier. Aurélie Filippetti nous décrit, comme beaucoup d'autres, Boris Johnson comme un leader populiste europhobe, mais qui rencontre néanmoins les desiderata d'une partie de la population britannique. Regardons par exemple la presse populaire britannique ce matin, par exemple Daily Mail, ce tabloïd populaire conservateur qui estime, je le cite, que le Parlement britannique est une House of Fools, c'est-à-dire la chambre des idiots ou la chambre des fous. C'est aussi ce que pense une partie de l'opinion britannique.
Oui, d'ailleurs, la presse populaire britannique, depuis longtemps, a un agenda anti-européen très actif. Et il faut bien dire aussi qu'elle a assez largement les opinions d'un des grands propriétaires, hein, Murdoch, tout de même, qui est très actif sur l'idée, depuis longtemps, d'avoir un référendum et puis d'avoir la sortie de l'Union européenne. Donc il y a effectivement cela. Ça fait déjà maintenant quelques années, Il faut un peu se pincer hein, quand on songe, comme le rappelait Dominique Stoppard, à l'histoire britannique et à la grandeur, Aurélie Philippe le disait à l'instant, du parlementarisme britannique. Il faut un peu se pincer pour voir que ce pays-là est attrapé lui aussi par la vague populiste. Il s'agit bien de ça, hein, clairement. On a même assisté il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus, on a assisté tous à des attaques verbales contre la décision de la Cour de justice sur l'irrégularité de la suspension du Parlement britannique. On a même assisté à des remises en cause du pouvoir de ces instances juridictionnelles. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle d'ailleurs très précisément l'illibéralisme aujourd'hui en Europe. Donc il est en train de se passer quelque chose de ce point de vue-là en effet au Royaume-Uni. Il n'y a plus maintenant, ça n'est plus simplement Nigel Farage et le UKIP, c'est au-delà, c'est une partie de la population britannique, de la presse, vous l'avez dit. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il faut ou pas un nouveau référendum. Mais je ne suis même pas sûr de l'issue du référendum, tant cette atmosphère aujourd'hui crée une forme de rage au Royaume-Uni. Ils sont plus proches de l'affrontement entre eux que d'un référendum pour rester dans l'Union européenne.
Conclusion rapide sur cette première partie, Dominique Schnapper.
Justement, je voulais dire un mot sur le référendum, parce que, évidemment, ça apparaît, c'est tout à fait contraire à la tradition britannique, comme vous savez. Le juin 2016, c'était un référendum. C'est un référendum dont nous n'avons pas fini de tous collectivement, enfin européens, d'avoir les conséquences. Et en plus, il n'est pas du tout sûr qu'un référendum serait gagné par ceux qui veulent garder des liens avec le continent, parce qu'étant donné cette division de la population britannique et cette division sociale et politique qu'il y a actuellement, tout peut arriver de nouveau avec un référendum.
Contamination populiste, disait Dominique Régnier. Société fracturée, disait Dominique Schnapper. Oui,
simplement, je voudrais juste rappeler une chose, c'est quand on parle du référendum britannique, on a toujours l'impression que finalement c'est le peuple qui a mal voté. Mais enfin, qui a voulu ce référendum?
Monsieur Cameron.
C'est David Cameron.
Et pour régler les problèmes internes du parti des Tories.
Voilà, exactement. Et c'était une opération purement politicienne.
Politicienne.
Et ce type est maintenant en train d'écrire ses mémoires tranquillement, retiré. Alors c'est lui qui a...
Il semble qu'il ait quelques remords, dit-on. Il a fait une petite dépression après, tout de même, sur le résultat de sa façon de résoudre les problèmes internes du parti conservateur.
Allez, ne faites pas de dépression à cause du Brexit et nous en reparlerons. Comme vous l'avez dit certainement, Dominique Schnapper, dans ce studio, en attendant, traversons la Manche. En France, un autre genre de débat sans fin, celui sur le voile, à chacun sa croix.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Vendredi 11 octobre, un élu du Rassemblement National a pris à partie une mère de famille voilée qui accompagnait des élèves à une séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et lui a demandé de quitter la salle. Une polémique sans fondement juridique puisque la loi sur ce sujet est claire. Les accompagnants ne sont pas tenus à la neutralité vestimentaire requise pour les enseignants. Fin de l'histoire ? Pas du tout. Le débat de s'enflammer toute la semaine, voire de s'hystériser autour de l'image poignante de cette mère voilée réconfortant dans ses bras son fils en larmes. Une pétition, jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans, avec 90 personnalités contre, je cite, l'islamophobie, trouvant insuffisante la condamnation de cet épisode par les dirigeants du pays. Voile, laïcité, islam, islamisme, terrorisme, grand retour en cet automne 2019 de ces débats aussi complexes que piégeux, hystérisé par un contexte post-attentat. Et un débat politique transcendant toutes les familles politiques, au sein du Rassemblement National aussi, Jordan Bardella déclare en cette semaine qu'il n'aurait pas agi comme l'élu de Bourgogne. Divergence aussi au sein de La République En Marche, entre la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, soutenant la maman voilée, et un ministre de l'Éducation rappelant lui que le voile islamique, je cite, n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française, tandis que l'une des personnalités les plus populaire de la droite, Xavier Bertrand, dénonçait la prise de conscience tardive du président de la République face à l'islam politique pour l'appeler à changer. De l'immigration au voile, comment le débat a échappé à Emmanuel Macron, affirme ce week-end le journal Le Monde. Racontant ce dernier mois où les questions d'immigration et d'islam, de terrorisme et de communautarisme se sont mélangées, du souhait présidentiel de regarder le sujet migratoire en face jusqu'à l'attentat de la préfecture et au débat sur le voile provoqué par cet élu RN. Sur ce dernier point, une question. Pourquoi donc le débat sur le voile ressurgit-il si régulièrement en France et avec un tel niveau de virulence? En 2003 pourtant, Jacques Chirac avait mis en place une commission, laquelle avait auditionné pendant plusieurs mois quelques 140 personnes représentant la société civile, les partis, les instances religieuses du pays, dont une centaine en séance publique, une commission qui avait passé en revue un nombre considérable de cas de figure, écoles, hôpitaux, lieux publics, jupes longues, bandeaux, un travail qui se voulait à l'époque exhaustif, voire définitif, mais au fond, la France veut-elle vraiment en finir avec ce débat-là?
Le président Chirac n'était pas le seul à attendre le rapport de la commission Stasi. On sait désormais que cette instance indépendante propose d'inscrire dans une loi de laïcité la règle de neutralité du service public et l'interdiction des signes ostensibles à l'école, comme le voile, la kippa, les grandes croix. En revanche, médailles ou étoiles de David sont considérées comme des signes discrets. Au terme de 3 ans d'audition, l'idée d'une loi s'est imposée.
Il y a en France des comportements que l'on ne peut pas tolérer. Il y a en France indiscutablement des forces qui cherchent à déstabiliser la République et qu'il est temps que la République réagisse et que la République marque ses limites et s'affirme. Mais tout cela dans le respect de la différence, dans le respect des religions.
Voilà la voix du défunt Bernard Stasi lorsqu'il remettait en décembre 2003 son rapport. Il y a eu ensuite, on s'en souvient, une loi sur les signes religieux dans les écoles publiques, la loi du 15 mars 2004. Pourquoi est-ce que l'on ne sort jamais de ce débat en France, Aurélie Filippetti?
D'abord, c'est pas quelque chose qui remonte à 10 ou 15 ans. Enfin, faut se rappeler que les discussions qui ont précédé la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ont été d'une violence absolument inouïe. Et en fait, on est les héritiers de cette histoire-là. Le combat de la France et de la République pour la laïcité, ça a été un combat extrêmement passionné et passionnel. À l'époque, évidemment, avec d'un côté ce qu'on appelait les séparatistes, hein, et puis il y avait ceux qui avaient une vision plus ouverte, ils disaient comme cela, de la laïcité. C'était Aristide Briand, Ferdinand Buisson, qui étaient ceux qui ont été à l'origine de la commission qui a permis la loi de 1905.
Et qui était plus modéré. Qui était favorable à une limitation, voire une interdiction du port de la soutane.
Parce que l'ennemi à l'époque, c'était le catholicisme d'État. C'était ça l'ennemi. Et surtout l'emprise de l'Église catholique sur l'école et sur l'enseignement à travers les congrégations. Et ça a été très violent. On a quand même chassé les congrégations, interdit d'enseigner. Enfin voilà, c'était quelque chose de violent et de passionnel. Donc on est arrivé à une loi en 1905, qui est d'une subtilité extrême, et la République, dans son article premier aujourd'hui, dit « la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Donc après, la question c'est comment on interprète ce concept de laïcité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours en revenir au droit et à la sagesse, notamment à la sagesse du Conseil d'État. Les évolutions qu'on a faites, Et au cours des 20 dernières années, disons, ont permis de clarifier un certain nombre de choses. Donc, par exemple, la loi de 2004 sur le voile, l'interdiction du voile à l'école pour les écoliers, pour les collégiens, pour les lycéens, elle repose sur quoi? Sur l'idée que ce sont des mineurs qui sont dans une phase d'apprentissage des contenus fondamentaux, qu'ils doivent développer leur esprit critique et être à l'abri de toute pression idéologique ou religieuse qui pourrait venir de leur environnement familial ou autre. Donc, ils doivent être finalement dans une position où ils vont recevoir des savoirs. Mais jamais la laïcité n'a été conçu dès les débats en 1905 sont très clairs là-dessus. La laïcité, c'est un principe de neutralité de l'État et du service public. C'est pas un principe de neutralité des usagers de ce service public ou des citoyens. Au contraire, pour les citoyens, il est bien précisé que c'est la liberté religieuse, la liberté de conscience et y compris la liberté de manifester tant que ça ne trouble pas l'ordre public, ses croyances religieuses. Tant que ça ne trouble pas l'ordre public. Donc là, de quoi parle-t-on? On parle de femmes qui sont donc adultes, qui ne sont pas qui n'exercent pas de mission de service public, parce que accompagner une sortie scolaire, ce n'est pas exercer une mission de service public, et ça c'est très clair. Et donc il n'y a absolument aucun fondement juridique à empêcher ces femmes, ces mères, d'accompagner des enfants dans des sorties scolaires. Elles ne sont pas dépositaires d'une mission de service public.
Mais pourquoi donc un tel débat cette semaine, Dominique Schnapper, alors même, comme vous venez de nous le rappeler, c'est incontestable, Aurélie Filippetti, que cela n'avait aucun fondement juridique, cette polémique, que par ailleurs elle est déclenchée par un élu du Rassemblement National, on n'est donc pas réellement surpris de voir tenir ce genre de position, et pourtant, dans la foulée, il y a ce débat-là, politico-médiatique, il y a cette pétition, jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans, avec des pétitions qui sont des journalistes, des artistes, des intellectuels et pas seulement appartenant à ce qu'on pourrait appeler un vote communautaire. Pourquoi est-ce que cela déclenche ce phénomène-là cette semaine ?
Ben, je crois qu'on vient de dire une des raisons. C'est une grande tradition depuis la loi de 1905. Je voudrais juste ajouter à ce que vous avez dit que c'est la loi des séparations des églises et de l'État. Bien entendu, elle était faite en fonction de l'Église catholique romaine et de son pouvoir, mais dans leur perception universaliste, nos ancêtres ont mis le pluriel, ce qui était une grande décision et pleine de signification. Alors bon, le droit est assez clair, en tout cas. Effectivement, il y a la liberté en dehors des écoles et la justification de la loi de 2004. Alors, il faut tout de même, puisqu'on est quand même dans des problèmes politiques et pas seulement juridiques, voir qu'il y avait eu des tas de problèmes entre 89, quand il y a eu Creil et le premier épisode. Au moment où le mur de Berlin s'écroulait, les Français discutaient des foulards à Creil, ce qui est tout de même assez pittoresque. Mais enfin bon, ça c'est autre chose.
C'est exactement ce dont nous sommes en train de parler.
Mais la loi 2004 a résolu le problème dans les collèges et dans les lycées, c'est-à-dire pour les mineurs. Donc, a priori, moi, je pense que les décisions consistent à dire on a un problème, on fait une loi, ce sont une mauvaise façon de gouverner.
Le Premier ministre a d'ailleurs dit très clairement qu'il n'y aurait pas de nouvelle loi.
Mais je pense que sur le fond, il a raison, mais en France, et la laïcité et le rapport à la loi sont un héritage dont nous devons tenir compte. En France, c'est souvent la loi qui résout le problème, et ça a été le cas. C'est très clair, en tant qu'usager du service public, les mères d'élèves peuvent s'habiller comme elles veulent. La question, c'est de savoir si au moment où elles accompagnent les classes, elles sont encore purement usagées, ou bien si elles participent, à l'enseignement dans un sens large, puisque l'accompagnement des classes fait partie de l'enseignement obligatoire. Et c'est là où il peut y avoir une discussion juridique. Et le vademécum de la laïcité dit bien que en qualité d'usager du service public, elles sont parfaitement libres, mais que on recommande de s'abstenir de manifester son appartenance. Et en ce qui me concerne, il me semble que la formule est bonne, parce que l'accompagnement des élèves fait partie de l'enseignement au sens large du terme, et que il y a des problèmes qui peuvent se poser si on affiche, en fonction de la laïcité, en fonction des principes de la laïcité, si on affiche une appartenance qui est religieuse. Mais ce n'est pas un problème religieux, parce que à aucun moment, nous disent les islamologues, le Coran ne dit qu'il faut avoir un foulard. C'est un problème plutôt d'égalité des femmes et des hommes. C'est ce que signifie le foulard. On se souvient, dans les années 20, il y a des photos admirables où les femmes égyptiennes peuvent se libérer du foulard, et c'était quand même un signe de libération des femmes. Et donc le foulard c'est moins un problème de religion et de laïcité qu'un problème, disons, plus politique de l'idée d'égalité des hommes et des femmes, et de ce que signifie le foulard. Alors là-dessus, évidemment, le Front National a trouvé une bonne occasion, ou tout de même quelqu'un du Front National a trouvé une bonne occasion de rendre hystérique un débat qui pourrait être raisonnable, mais là encore, c'est l'héritage.
Est-ce que c'est seulement le Rassemblement National, Dominique Reynier, qui hystérise ce débat-là ces derniers jours? Quel est donc ce contexte politique qui fait que ces sujets redeviennent hautement inflammables? Parce que ça part en effet de ce phénomène de cet élu Rassemblement National, mais je le disais, ensuite il y a cette pétition, jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans? Ensuite, il y a ces réactions en cascade de membres de la majorité qui ne tiennent pas forcément le même discours, de ténors de la droite qui se mènent à reprocher au macronisme de ne pas regarder en face ces sujets-là. Quel est donc ce contexte politique-là ?
Ce qui est extraordinaire, c'est que le 3 octobre, 5 policiers étaient assassinés à la préfecture de police de Paris. Et les spécialistes expliquent, moi je l'ai appris récemment, peut-être le saviez-vous, que la première victime a été égorgée et les 4 autres n'ont pas pu être tués aussi vite sans un entraînement du tueur qui a porté les coups exactement là où il fallait les porter pour pouvoir tuer immédiatement les 4 autres policiers. Et ça, c'est le 3 octobre. Et à peine 10 jours après, on est dans une situation qui ne peut pas ne pas être mise en relation avec cette scène épouvantable, parce que c'est cela aussi, ce débat. A-t-on le droit de porter le foulard en France ? On a le droit. On a le droit, les conditions ont été rappelées. L'intervention de cet élu du Front National, du Rassemblement National, n'a aucun sens du point de vue du droit. Elle a un sens évidemment politique. Dans le contexte de cette montée d'un islamisme en France, très actif et qui progresse. Et c'est ça aussi le fond de l'inquiétude, c'est-à-dire sommes-nous face à des personnes qui demandent plus de tolérance ou sommes-nous dans un jeu où nous perdons sans cesse parce qu'en réalité c'est une affaire de quête d'influence. La position de beaucoup de courants islamistes a été dans cette affaire caricaturale. On a vu des dessins qui ont osé comparer des musulmans français portant des musulmanes portant le voile avec une étoile dans le dos comparée aux Français juifs portant l'étoile de David en 1940. La date était inscrite sur les caricatures. C'est tout à fait impressionnant comme manipulation de l'histoire. La position du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, était très bien. C'est autorisé et c'est pas souhaitable. On peut dire ça au nom d'ailleurs de l'égalité homme-femme que rappelait Dominique Schnapper ici. En fait, moi, mon sentiment, c'est que nous commentons pas simplement cette histoire de foulard, qui était d'ailleurs peut-être en l'espèce, mais j'aimerais bien qu'un spécialiste me le dise, je ne suis pas spécialiste de cela, pas un foulard ni un voile, mais plutôt ce qu'on appelle l'abaya, qui est quand même une tenue vestimentaire de l'Arabie Saoudite. Donc on voit derrière tout ça quand même beaucoup de signes d'une sorte
pardon,
de...
Pardon, mais ça n'était clairement pas ce qu'on peut appeler le voile golfique. Pardon,
moi, voilà. J'y ai voyagé dans le golf,
finir,
ce n'était clairement pas le voile golfique.
Je vais finir mon propos, parce que ça c'est important, je voudrais conclure par là. En fait, ce qui se passe, c'est exactement ce qui va nous occuper jusqu'en 2022. Et j'espère qu'on arrivera à desserrer tout ça. C'est le Rassemblement National qui prend le lead dans le débat public. C'est son débat auquel nous participons tous. Face à lui, une poussée islamiste. Si nous avons comme champ politique d'affrontement la poussée du RN ou la poussée de l'islamisme, moi je peux dire qui remportera les élections 2022.
Aurélie Philippe. Moi je veux réagir parce que je suis extrêmement choquée par la comparaison entre l'attentat qui s'est passé à la préfecture de police et des femmes qui choisissent de porter le voile. Le voile islamique ne signifie pas qu'elles sont des islamistes et radicales.
Sur la baïa, c'est douteux.
Non, c'est pas possible de faire ça. Ce n'est pas possible de faire ce genre de comparaison. Mais non, non. D'ailleurs, il y a des milliers de femmes qui portent le voile en France et qui simplement manifestent leur attachement comme ça à leur religion. À un moment donné, on peut aussi simplement se dire que elles ont choisi de porter le voile, ce qui ne fait pas d'elles des militantes islamistes. Ça fait simplement d'elles des femmes qui choisissent de manifester leur appartenance religieuse de cette manière-là. Et on ne peut pas comparer cela ou mettre cela en relation avec l'attentat à la préfecture de police. Ça fait partie d'un contexte du débat public extrêmement dégradé qui font que, franchement, nos compatriotes, d'ailleurs on dit nos compatriotes musulmans, mais je vous rappelais encore une fois le début de la Constitution, le premier article, c'est quoi la République ? Elle est indivisible. On ne devrait même pas parler de ça. Qu'on demande ensuite aux musulmans de France de venir s'exprimer, condamner, se désolidariser de l'islamisme radical.
On a bien demandé des comptes, à l'Église catholique. C'est arrivé, ça.
Enfin, on ne demande pas aux catholiques de France de se désolidariser de ceux qui prônent, je ne sais pas moi.
Mais sur l'antisémitisme, on leur a demandé. On leur a demandé et ils l'ont fait.
On ne leur demande pas de descendre dans la rue en disant je ne suis pas antisémite. Personne n'a demandé ça.
On
n'a pas le droit de le faire. On est tous des citoyens français. La République, elle est indivisible. On ne peut pas comme ça couper dans la République. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à stigmatiser une partie de la population qui est musulmane ou pas d'ailleurs, qui est d'origine, en fait, d'origine...
Vous auriez pu la signer, cette pétition d'intellectuels, de journalistes, jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans? Vous diriez comme eux qu'il y a un contexte d'islamophobie qui se développe dans ce pays?
Mais je ne sais pas s'il faut employer le terme islamophobie ou musulmanophobie.
C'est le leur, c'est pour ça que je le reprends, c'est le leur.
Pour moi, c'est une forme de racisme qui trouve aujourd'hui à s'exprimer d'une manière différente. Mais sincèrement, si j'étais une descendante d'immigrés d'Afrique du Nord, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je me sentirais extrêmement stigmatisée dans ce pays. Voilà. Et ça doit nous interroger tous. Et tous ces débats sont nauséabonds et créent un climat quand même terrible. Ceux qui troublent l'ordre public, ce ne sont pas ces femmes qui portent le voile pour une sortie scolaire dans l'année. C'est les Éric Zemmour qui vont déblatérer leur discours de haine à la radio. Ce sont ces élus Front National qui font des scandales dans des enceintes républicaines.
Il n'y a pas d'organisation islamiste, Aurélie Philippe Petit.
C'est ces femmes-là.
C'est évident.
Enfin, mais je veux dire, il y a des milliers de femmes en France.
Aurélie Philippe Petit, sont les frères musulmans. Et pourquoi excluez-vous ces femmes du droit à l'égalité homme-femme et à la laïcité?
Écoutez, moi j'ai voté l'interdiction de la burqa. Je l'ai voté, l'interdiction de la burqa. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir.
Lorsque vous étiez députée socialiste.
Oui, quand j'étais députée socialiste, on était très minoritaire dans mon groupe. Pourquoi? Parce que c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Ça a été d'ailleurs reconnu comme tel par le Conseil d'État.
S'il en fallait plus,
ce serait... pas le cas pour le voile, qui encore une fois, ça peut être simplement la manifestation de son attachement à sa foi musulmane. Et encore une fois, moi, je suis intransigeante sur les questions féministes,
vous en donnez la preuve contraire, Aurélie Philippe Petit. Vous n'êtes ni laïque ni féministe.
Parce qu'au nom de quoi vous parlez à la place de ces femmes?
Ce sont des signes d'inégalité.
Vous ne pouvez pas parler à la place de ces femmes.
On peut les tolérer, mais il ne faut pas.
Dominique Régnier rapidement et Aurélie Philippe Petit.
Franchement, ma grand-mère qui était italienne a toujours mis un voile sur la tête. Je l'ai jamais vue sans un voile sur la tête. Et donc, qu'est-ce que je dois dire de ça? Mais enfin, c'est un signe d'appartenance.
Allez, Thomas Gomard,
les conditions politiques n'étaient pas les mêmes.
Thomas Gomard qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.
Moi, je crois que le lien entre l'attentat qui est gravissime en termes symboliques de la préfecture de police de Paris et cet incident s'explique par le discours du président de la République qui a parlé du combat contre l'hydre islamiste d'une part et de la nécessité de mettre en place une société de vigilance d'autre part. Et c'est précisément le terme qui a été utilisé par l'élu du Rassemblement National dans son apostrophe à cette femme. Donc pour moi, le lien en fait explique cette rapidité, ce caractère très, très inflammable. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'on est effectivement, de mon point de vue, face à une poussée islamiste qui est encouragée de l'étranger, très clairement, sur laquelle on pourra revenir. Il faut lire ce que veut faire. Et ça explique aussi beaucoup de choses sur notre attitude par rapport à la Syrie actuellement. Ce que veut faire l'État islamique, qui est quand même que son étendard flotte sur Saint-Pierre de Rome, et que pour ce faire, il y a effectivement un projet organisé, qui doit être tout à fait séparé de la question du voile, mais en même temps, la question du voile reflète cette forme de poussée. La deuxième chose, c'est que, à mon avis, dans le discours du président de la République, il y a une mention qu'on n'a pas faite, c'est son discours aux Bernardins, en avril 2018, où il s'adressait aux catholiques. Et il s'adressait aux catholiques en disant « Votre rôle est désormais d'essayer de renforcer la cohésion nationale ». Et donc la question, en fait, c'est quelle fonction le président de la République est en train cherche-t-il à assigner aux religions comme outil de renforcement de la cohésion nationale? Et je pense qu'il n'est pas du tout au clair avec cela, en particulier avec les musulmans. Et dernier point, qui me semble tout à fait important, c'est qu'en fait, on est sur ces questions religieuses extrêmement braquées, extrêmement sensibles, alors même qu'on est dans une situation historique de déchristianisation extrêmement rapide en France. Un chiffre, 95% de baptisés en 65, 30% aujourd'hui. Et à l'inverse, ce que les historiens du religieux appellent une inversion de la courbe de ferveur. L'impression qu'au fond, ce sont les musulmans qui sont aujourd'hui les plus fervents en termes religieux. Et ça, je pense que ça explique beaucoup nos difficultés parce que nous avons un personnel politique qui a beaucoup de mal à analyser le fait religieux en tendance. Dernier point, ce ne sont pas les musulmans ou les catholiques qui sont importants de ce point de vue-là, ce sont les nonistes, c'est-à-dire les gens qui ne croient à rien, qui sont en fait majoritaires dans notre pays et qui, encore une fois, à mon avis, sont un peu désarmés intellectuellement pour comprendre ce qui est en train de se passer, encore une fois, avec un soutien étranger dans le cadre des musulmans.
Merci à tous les quatre et merci pour cette transition qui nous amène vers le Moyen-Orient. En effet, nouvelle semaine de chaos à la frontière irako-syrienne et un cessez-le-feu temporaire arraché. Donald Trump s'en réjouit, mais qui est vraiment le grand gagnant de ce bourbier syrien? Ne serait-ce pas Vladimir Poutine, grand Manitou d'un Moyen-Orient où disparaîtrait l'Occident?
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
9 jours d'offensive, 500 morts, des dizaines de milliers de déplacés. La Turquie qui a accepté vendredi donc un cessez-le-feu à condition que les milices kurdes quittent la frontière turco-syrienne. Victoire, a crié Donald Trump, se vantant d'avoir orchestré la rencontre entre son émissaire Mike Pence et le président turc. Mais qui a vraiment gagné dans cette histoire? Les Américains qui mettent en avant d'avoir brandi de lourdes sanctions économiques sur une économie turque déjà en récession. Recep Tayyip Erdogan qui se réjouit d'avoir fait reculer les milices kurdes et de voir a priori s'évanouir le rêve d'un Kurdistan à sa frontière. Bachar el-Assad qui peut se dire lui aussi victorieux d'avoir le soutien de l'armée russe pour reprendre pied sur son territoire, remettre la main sur les Kurdes et pour constater que plus personne n'ose vraiment demander un changement de régime à Damas. Dans ces différentes équations, un homme sort incontestablement grand gagnant, Vladimir Poutine, désormais solidement implanté dans cette région du monde, ayant profité de la guerre contre Daesh, d'un désir américain profond de se désengager des conflits moyen-orientaux, Poutine devenant l'homme incontournable, celui qui d'ailleurs reçoit mardi prochain chez lui à Sotchi le président Erdogan en marge d'un sommet où le président russe reçoit des chefs d'État africains comme pour démontrer son nouveau rayonnement mondial. Une rencontre Poutine-Erdogan mardi, comme par hasard le dernier jour du cessez-le-feu, comme s'il va de soi dans ce nouveau monde qu'il revient évidemment à Vladimir Poutine de décider de la suite.
On behalf of the United States, I want to thank Turkey.
Au nom des États-Unis, je veux remercier la Turquie. Je veux remercier tous les gens qui se sont rassemblés et ont rendu cela possible. C'est une issue incroyable. C'est un grand jour pour les États-Unis, un grand jour pour la Turquie, pour les Kurdes. C'est un grand jour pour la civilisation. Tout le monde est content. Je suis content parce qu'il n'y a pas de combat. Nous pouvons ramener à la maison la plupart de nos hommes pour la première fois depuis de nombreuses années. Je pense que ce cessez-le-feu va durer. Je pense que le président Erdogan est très intelligent. Je pense qu'il veut que le cessez-le-feu dure. Il veut la sécurité pour ses citoyens. Erdogan a fait une chose formidable. C'est un leader. Erdogan sera très heureux, les Kurdes sont très heureux, la Turquie est très heureuse, les États-Unis sont très heureux, et vous savez quoi? La civilisation est très heureuse.
Voilà pour ces propos de Donald Trump se réjouissant du cessez-le-feu de 5 jours accepté par les belligérants de la zone turco-syrienne, mais en réalité sur le terrain on l'a constaté assez peu respecté. Donald Trump parle, s'agite, Thomas Gomard, et en même temps jamais on a autant vu sans doute l'inconstance, l'inconsistance trumpienne, américaine pour ne pas dire occidentale.
Cette inconstance met effectivement par effet de contraste en valeur la constance russe. Ce qui est en train de se passer de mon point de vue, c'est une vraie inversion géostratégique avec 3 cycles qui sont en train de se refermer. Le premier, c'est celui ouvert précisément par Moscou en 1979 avec son invasion de l'Afghanistan, qui a déclenché le salafisme politique précisément. Et aujourd'hui, on a un discours russe nous expliquant au fond que ce sont les seuls à se battre contre le djihadiste. C'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. 1979, 1980, c'est l'accord entre l'URSS et la Syrie qui a servi de base à l'intervention russe en Syrie en 2015. Et donc il y a là effectivement une sorte de 40 ans après de retour de centralité de la Russie au Moyen-Orient, tout à fait spectaculaire, et qui s'explique aussi, j'ai pas le temps de développer, mais qui doit être compris pour nous Européens avec ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que pour la Russie, les deux théâtres sont liés et participent d'un retour d'influence globale. Le deuxième cycle, c'est la fin, au fond, ça commence au Kurdistan et ça finit au Kurdistan de manière tout à fait frappante. Vous avez des auteurs américains, je pense à quelqu'un comme Michael Mandelbaum, qui explique qu'au fond, la politique américaine a changé de cours en 1991, lorsque les États-Unis, après être intervenus au Koweït contre Saddam Hussein, parce que leurs intérêts étaient en jeu avec la coalition, sont ensuite intervenus humanitairement pour protéger les Kurdes qui fuyaient l'Irak et qui avaient fait l'objet d'attaques chimiques de la part de Saddam Hussein. Et au fond, c'est le début où ils n'interviennent plus pour leurs intérêts, mais au nom de leurs valeurs. Et ça, ce cycle-là, au fond, à mon avis, est clos aujourd'hui par Donald Trump, qui, avec le cynisme qu'on lui connaît, dit aux Kurdes, débrouillez-vous tout seuls, vous êtes battus contre l'État islamique, très bien, mais au fond, nous n'interviendrons plus au nom des valeurs. Et ça, c'est un cycle, à mon avis, qui est en train de se refermer, c'est-à-dire que les États-Unis vont s'intéresser maintenant au pays lorsqu'ils interviendront en dehors de leurs frontières, mais plus à l'intérieur de leurs frontières. Donc c'est tout le débat sur la responsabilité de protéger qui avait abouti au milieu des années 2000 à l'ONU, à mon avis, qui est remis en cause. Et ça, ça ouvre un troisième cycle extrêmement préoccupant pour les Européens, c'est que nous allons nous retrouver face à notre destin beaucoup plus vite que prévu. Le fait que, je le mentionne dans la première partie de l'émission, le fait que la résolution franco-britannique a été repoussée au Conseil de sécurité est un indicateur parmi d'autres, que les Européens vont être face à un contexte stratégique complètement dégradé. On pensait que leur sécurité était assurée par les États-Unis depuis 91, et c'est plus le cas. Et donc ils entrent dans cette phase avec une dépense militaire parfaitement insuffisante et par rapport à des chocs qui vont évidemment se multiplier.
Cette Europe, en effet, Dominique Rigny, qui se retrouve dans l'œil du cyclone, vous l'avez fort bien rappelé, Domingo Mars, sans protection américaine, menacée potentiellement toujours par le djihadisme et par ses ambitions impériales russes, à la fois aux portes de la Turquie et aux portes de l'Europe. L'Europe, elle doit plus que jamais avoir son autonomie stratégique, mais est-ce que vous voyez vraiment la situation évoluer dans ce sens?
Malheureusement, non. Je trahis une préférence en disant malheureusement, mais je ne suis pas sûr que ce soit difficile à deviner. C'est un sujet intéressant parce que ça fait longtemps que l'on dit que l'Europe a besoin de faire sur ce plan-là, sur la question stratégique, militaire, etc., des progrès rapides et importants. C'est toujours passé pour une sorte de discours très, très naïf qui ne correspondait pas aux réalités des États et de l'histoire. Et on voit aujourd'hui peut-être que même si on s'y mettait maintenant, ce serait presque trop tard. À quel point donc il était juste de réclamer cette défense européenne. Je veux aussi ajouter que pour l'avoir mesuré moi-même dans une enquête récemment, dans les 28 pays de l'Union européenne, il y a une demande très puissante de l'opinion de cette capacité européenne de défense. Et il faut pas oublier de songer à ça, parce que chez les Européens, nous tous, de façon tout à fait ordinaire, nous éprouvons collectivement une forme d'inquiétude dans un monde dont on voit bien qu'il se recompose.
Il y a une demande, en effet, vous l'avez dit, qu'on constate quand on sonde l'opinion européenne, mais concrètement, aujourd'hui, s'il fallait envoyer des soldats estampillés européens à la frontière turco-syrienne, à part envoyer, comme l'a dit Thomas Gomard tout à l'heure, des soldats français et britannique, qui pourrait-on envoyer?
Personne,
ça nous le savons. Les deux États qui ont une force de protection militaire, c'est le Royaume-Uni et la France, ça on le sait. Et même la France, plus que le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni a beaucoup faibli de ce point de vue-là dans les dernières années, et la France ne peut pas envoyer beaucoup plus que 10 000 hommes, ce qui n'est pas suffisant. Donc nous sommes démunis, en effet. Et on voit bien, moi, si vous me permettez d'ajouter cet élément de réflexion, on voit bien dans cette scène que Erdogan n'a pu agir que parce que Trump a pris la décision que l'on sait et parce que Poutine tolère ou ne tolère pas. Et en réalité, dans ce qui se passe, moi ce qui me préoccupe beaucoup, c'est une forme de délitement de la Turquie. Je trouve qu'on prête à Erdogan une puissance qu'il n'a plus au plan économique, au plan intérieur. Son parti se défait, les grands soutiens l'abandonnent, il a de l'inflation, du chômage, la monnaie turque s'est effondrée. Il a de très grandes difficultés, c'est sans doute une des raisons derrière cette opération. Mais là aujourd'hui, il n'est plus en réalité en situation de maîtriser la scène qu'il vient d'ouvrir. Et comme vous le disiez, Émilie Oubry, Je termine par cette remarque parce qu'elle nous ramène à un sujet précédent, c'est surtout pas pour y revenir, mais nous sommes dans cette phase-là. Il y a, on le sait maintenant, une nouvelle menace d'activisme des djihadistes de Daesh. Et il faut espérer, Erdogan nous en a menacé expressément, il faut espérer qu'ils ne reviendront pas agir dans l'espace européen. C'est un des grands facteurs des grandes poussées populistes. Si, ouais. Et d'ici 2022, ce serait vraiment...
Même si beaucoup d'experts disent que c'est d'abord une menace djihadiste qui pèserait sur cette région-là du monde, la frontière turco-syrienne, ou en tout cas autour. Thomas Gomard, Dominique Régnier disait à l'instant qu'on prête peut-être à Erdogan une puissance qu'il n'a déjà plus. Au fond, les deux que l'on voit revenir clairement dans des positions de puissance évidemment différentes, c'est Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. Bachar el-Assad qui peut donc reprendre pied pleinement sur un territoire qui est le sien, plus personne qui ne menace réellement la légitimité de son pouvoir, et Vladimir Poutine que chacun va consulter. Expliquez-nous par exemple, ce qui va se passer mardi prochain à Sochi.
Bon, d'abord sur la Turquie, effectivement, il y a un certain isolement de la Turquie. En fait, la relation aujourd'hui la plus substantielle pour la Turquie, c'est avec le Qatar, ce qui a d'ailleurs aussi des effets sur les frères musulmans dont on parlait précédemment, mais je ne revois pas le débat. C'est aujourd'hui un pays qui n'a plus de contact avec l'Égypte, qui n'avait plus de contact avec la Syrie de Bachar el-Assad. Et au fond, tout le grand projet pan-ottoman d'Erdogan a échoué. Et pays qui reste membre de l'OTAN, ce qui évidemment peut être vu à la fois comme quelque chose d'intenable sur la durée, et en même temps qui, à mon avis, est un peu une corde de rappel. Mais je rejoindrai volontiers Dominique Régnier pour dire ne prêtons pas trop de puissance à Erdogan, à ceci près qu'il a l'occasion rêvée pour régler le problème kurde à sa manière. Alors, en ce qui concerne Vladimir Poutine, ce qui est assez remarquable dans ce que la Russie a fait, ce sont les effets produits par une intervention militaire un peu comparable en taille à ce que les Français ont fait au Mali. Sauf que, comme le théâtre était différent, évidemment, ça a complètement renversé la situation, le régime de Bachar ayant été sauvé par l'intervention russe et également par le soutien iranien. Ce qui place effectivement aujourd'hui Vladimir Poutine dans une situation d'équidistance avec les principaux acteurs. Non seulement il parle très directement avec Bachar el-Assad, avec Téhéran, mais également il a noué des liens avec l'Arabie Saoudite. Il a un rôle tout à fait essentiel vis-à-vis d'Israël. Au fond, il équilibre le conflit entre Israël et l'Iran en Syrie. Il parle évidemment à la Turquie, c'est-à-dire qu'il a quand même fait faire un pas de côté à la Turquie par rapport à l'OTAN. Et donc ça donne une centralité à la Russie tout à fait spectaculaire par rapport à la position qui était la sienne il y a seulement 10 ans. Et ce qui met, je dirais, en relief l'absence ou le retrait européen. Et alors ce qui va se passer, à mon avis, cette semaine, c'est que, contrairement peut-être à ce que l'on continue à croire à Paris, en fait la Russie dit aux Européens, en particulier à Paris, vous n'avez plus rien à faire dans la région. Voilà. Hein, pour prendre une formule qui est à court en ce moment dans le discours présidentiel, prenez votre perte. C'est ça, en fait, à mon avis, qui est en train de se passer. Vous n'avez un rôle à jouer qu'en termes de reconstruction. Mais sur les équilibres politiques, vous n'avez plus rien à dire. Et le dernier élément, c'est que la cohérence du discours russe a toujours été de dire de préserver l'intégrité territoriale de la Syrie. Et ce faisant, effectivement, ils sont en train de donner à Bachar el-Assad progressivement la possibilité de recouvrer l'ensemble de sa souveraineté.
Un dernier mot avec vous, Aurélie Filippetti, dont je n'oublie pas que vous étiez en fonction, comme on dit, c'est-à-dire membre du gouvernement, à une époque qui semble maintenant très lointaine, où la France participait à des coalitions internationales, où elle allait intervenir seule au Mali. Aujourd'hui, ce que l'on constate pour la France, pour les Européens, et peut-être au-delà pour l'Occident, c'est la fin de ce qu'on appelait autrefois l'ingérence, l'interventionnisme, c'est l'impuissance occidentale.
Il faut rappeler que la France a tenté, sous le président Hollande, justement, une possibilité d'intervention en Syrie à l'époque, début 2013, et que ça n'a pas été
trahi
rendu
par
possible
Obama,
parce que les parlements britanniques et américains ne voulaient pas, et parce que Poutine, déjà à l'époque, s'était opposé avec beaucoup de fermeté à toute intervention contre Bachar el-Assad.
Tout petit mot de conclusion.
Non, je voudrais juste dire un mot sur le problème des Kurdes, parce que les démocraties se sont conduites. On parle tout le temps de Munich sur des sujets où ce n'est pas Munich, mais là c'est quand même Munich, c'est-à-dire que on a sacrifié nos alliés et nos valeurs.
Merci beaucoup à tous les quatre, Thomas Gomard, Dominique Régnier, Dominique Schnapper et Aurélie Filippetti. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, YouTube Diego Hack Lopez. Merci à lui, à suivre Caroline Brouet pour Les Bonnes Choses. Qu'est-ce que la cuisine responsable, suivi de Marc Weisman, Signe des Temps, qui reviendra sur la décennie noire en Algérie. Comment la raconter? Quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.